Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Bonjour Pierre et merci d'avoir accepté de participer à mon podcast aujourd'hui. Comment allez-vous ?
Ça va. J'ai réglé le problème de Zencastre, donc tout va bien.
Ça fait partie des joies du confinement. Ouais. Quelle est, selon vous, Pierre, la plus belle qualité du monde ?
Peut-être le respect, sans doute, parce que le respect, ça induit tout le reste, quoi. Respecter, ça veut dire accepter la différence, ça veut dire écouter, ça veut dire comprendre, ça veut dire faire attention aux gestes, aux paroles, ça évite l'autorité débile.
Ouais,
voilà, je crois que j'ai tout dit, là.
Oui. Comment vous faites pour nourrir votre envie depuis une cinquantaine d'années?
La vie m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens, de vivre des situations qui m'ont obligé à prendre des décisions douloureuses et radicales qui font que j'ai peu à peu réussi, pas complètement jamais, hein, mais j'ai réussi à me défaire d'attitudes, de comportements, de raisonnements qui m'empêchaient qui m'empêchait de comprendre qui je pouvais être. On ne sait jamais qui on est quand on est enfant, quand on est adolescent. On est fougueux, on est manipulé par ses proches, par l'école, par ses parents, par la religion, enfin toutes sortes de choses. Il ne s'agit pas de tout rejeter. Moi, j'ai pas rejeté les choses. Je les ai juste comprises, je les ai mises à plat et je me suis à peu près approprié ma vie. Et donc quand ça c'est jamais réglé jusqu'à la mort, on est en apprentissage. Moi, je le ressens de plus en plus, ça. Vous m'auriez posé ce genre de question il y a même 5 ans, je vous aurais répondu très très vite, très de façon très peut-être sans doute plus confuse. Là, quand même, ce genre de question, et ben, j'essaie de réfléchir et j'essaie de vous donner une réponse qui soit le plus honnête possible. Même s'il y a 5 ans, elle aurait été honnête, mais elle aurait été confuse. Là, je me rends compte que les choix que j'ai faits, ils m'ont libéré de chaînes contraignantes qui vous empêchent d'être heureux. On n'est jamais vraiment heureux, mais paisible, quoi, vous voyez, en accord avec soi-même. Alors bien sûr, parfois on a des petits accros, on fait des erreurs ou il y a des incompréhensions qui amènent à des tensions, mais ça c'est inévitable. Mais tant que ça reste contrôlable et raisonnable, bon ben ça va, ça le fait, quoi.
Qu'est-ce qui vous agace?
La mauvaise foi.
Ouais.
La dictature des idées, le laisser aller, moral, professionnel. Voilà, enfin.
Et ça, vous y êtes
le manque de. Ouais, après, des choses plus banales, le manque de civisme. Je m'en fous, ils se démerdent. Enfin, vous voyez, après moi le déluge. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de retenue, d'être vigilant, de pas empiéter sur le confort des autres. Vous voyez, enfin.
Il y a beaucoup de choses.
Oui, mais c'est tout ça. Oui, mais comme tout un chacun.
Oui, bien sûr.
Comme tout un chacun, on est agacé par la douche qui est pas assez forte. ça c'est toujours un truc qui m'énerve, qui m'agace, c'est anecdotique, mais comme bon, voilà, depuis quelques mois, je voyage plus bien évidemment, mais c'est vous êtes dans une chambre d'hôtel et vous avez deux fioles, une de shampoing et une de douche. Et bon, comme en général, bon, ben, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes, et j'en fais partie. Mais bordel de Dieu, mais c'est quoi le shampoing? C'est quoi le gel douche? Ils l'écrivent plus gros. Vous voyez? Voilà, ça c'est des agacements. Oui, mais qui peuvent amener une chute, vous voyez.
Ben oui, oui.
Comme celle de la recherche d'une application.
Oui, alors ça, je vais vous dire, on va trouver une solution technique. Est-ce que vous aimez qu'on vous aime ?
Mais qui n'aime pas qu'on l'aime ?
Ah bah, ceux qui mentent.
Ah oui, mais ceux qui mentent, qui disent qu'ils vous aiment ?
Qui disent qu'ils s'en fichent.
Ah non, personne. L'animal que nous sommes a besoin d'amour, a besoin d'affection, a besoin de reconnaissance. Moi, je vois bien dans mon travail, j'ai toujours été meilleur, et encore aujourd'hui, dans mes partenariats, enfin, le mot aimer est peut-être un peu fort, mais si je sens qu'il n'y a pas du respect pour ce que je fais, ce que je suis, j'ai du mal à travailler, quoi. C'est beaucoup plus difficile. Je pense que ce qui fait le ciment de la société, c'est évidemment l'affection que l'on se porte aux uns et aux autres, quoi. Bon, je prends un exemple, si on n'avait pas eu un moment ensemble cet automne, la discussion n'aurait pas la même densité qu'elle peut avoir maintenant, vous voyez, parce que on s'est vu, on s'est senti, on a eu du plaisir à passer ce moment ensemble. Donc ça change tout, hein. Et c'est ça la vie, hein.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ?
La dernière fois où j'ai eu un sentiment de comme ça de d'extrême pas désarroi, d'extrême abandon, je suis allé chercher mon petit-fils à l'école, qui est dans une école qui est sur les pentes de la Croix-Rousse, qui est l'école parfaite pour moi. Enfin, ils ont la vue sur la ville, ils sont près d'un amphithéâtre romain, ça sent la craie, ça sent tout ce que j'ai senti enfant. Ces mômes qui se rentrent dedans, rient, ces maîtresses bienveillantes qui sont tellement loin de du pouvoir, de l'argent, de conquête, juste aimer ces mômes dont ils ont la charge, c'est à pleurer ça, c'est à pleurer. Voir ces gamins, on dit mais qu'est-ce qu'ils vont. Moi, mon petit-fils, il a un copain, il sait pas où, il dort à l'hôtel, c'est un enfant migrant, c'est son meilleur copain. Son copain, il a pas de maison. Quand on voit des enfants, à mon âge, je peux le dire ça, on voit déjà dans leurs yeux, dans leur comportement, dans leurs vêtements, dans leur attitude. Il y a déjà un parcours de vie qui est presque tracé, quoi. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant de voir ça.
C'est extraordinaire de se dire que l'école que votre petit-fils connaît, elle ressemble à la vôtre, quand même.
Ben, elle ressemble à celle que j'ai connue en mieux. Parce que, en mieux, avec moi, quand j'étais gamin, à l'âge qu'il avait, le petit, on m'attachait la main au banc parce que j'étais gaucher, quoi. Et ça a beaucoup déteint sur ma vie, quoi. Cette part de moi de moi qu'on a complètement ligoté, quoi. Mais aujourd'hui il y a d'autres prisons qui sont construites, malheureusement, qui sont pas la main attachée au banc, c'est autre chose. Il faut réfléchir, hein. C'est la précarité du travail, c'est l'enfer des jeux vidéo, c'est le stress des parents, parce que pour se loger, c'est une gymnastique infernale, quoi, pour les familles jeunes, même des gens normaux, hein, des gens même qui sont ce qu'on appelle la classe moyenne, hein, c'est très difficile, hein. Là, en ce moment, il se joue des choses terribles, hein, avec le confinement. Là, on en verra les résultats dans quelques années, hein. Et là, on se dira peut-être qu'il n'aurait peut-être pas fallu confiner. Le mal sera peut-être mieux que le bien qu'il en est sorti. Mais on peut pas dire aujourd'hui. Et bien, nous sommes des privilégiés, hein. Vous êtes là, moi je suis là, hein.
Est-ce que vous avez un trait de caractère dont vous aimeriez vous débarrasser ?
Oui, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé, ça va mieux, mais c'est vite, vite régler les problèmes, ou alors ne pas les voir, ou alors les esquiver. Parfois, mettre des silences sur des choses qu'il faut dire. Mais j'y travaille.
On travaille toute sa vie sur son caractère.
Mais bien sûr. Non. Et puis alors, ne pas se laisser avoir effectivement par les faux semblants, garder raison dans tout, quoi. Dans le succès comme dans l'échec. Tout est précaire dans notre vie. Je me souviens, il y avait une réflexion de cuisiniers célèbres qui étaient mes aînés, dont je tairai les noms, bien sûr, et qui disaient, nous, on se partage le monde. Voilà, l'Ouest est à toi, l'Ouest est à moi. Bon, ben, aujourd'hui, ces gens sont disparus et le monde continue de tourner sans eux. Hein. Mmh. Donc, faut quand même avoir la notion de la précarité de nos positions, quoi. Moi, il y a un jour, quelqu'un qui disait, moi, je fais manger de la purée à tout Paris, quoi. Ça m'avait semblé un peu ça me semblait un peu prétentieux, quoi. Mais on dit tous des conneries, hein. Moi, j'en ai dit. C'est ça aussi la vie, hein.
Bien sûr.
Il faut pas non plus, on passe sur mal toutes les trois minutes, hein.
Non. Alors, vous parlez beaucoup du fait que vous êtes gaucher, que vous en avez souffert. Donc ça, on le sait de vous, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on ignore de vous?
Non, je suis assez clair, assez clean. J'ai pas de face cachée, quoi. Je crois que je suis transparent. J'ai pas d'agenda caché, et puis surtout j'ai à peu près tout dit, et d'ailleurs de rencontre à rencontre, je raconte toujours la même chose. Après, c'est la façon de le dire. Puis il y a parfois des gens qui peuvent amener une question, qui peuvent amener quelque chose d'un éclairage un peu différent. Mais ce qui est évident, c'est que moi, mon métier, ce dont je suis le plus fier, c'est que les valeurs qui ont dicté le début de ma carrière, c'est-à-dire le respect, effectivement, aujourd'hui, ça devient la normalité, c'est en train de devenir quelque chose de non seulement normal, mais d'exiger. On exige ça des gens. Et il est bien évident que c'est pas les politiques, c'est pas les grandes institutions, c'est pas des lois qui vont changer le monde. Le monde, il évolue, il change par la société civile, par les gens qui travaillent, les politiques sont importants. Moi, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'hommes politiques parce qu'il y a quand même des gens extraordinaires qui en prennent plein la tête. Bon, ils ont un peu d'ego, mais on fait rien sans ego, comme la cuisine, pareil. Hein. J'ai réussi à construire une famille d'esprit. Vous voyez la personne qui vous a pris à l'instant, là, Véronique, elle est avec moi depuis plus de 30 ans, cette femme. Elle a commencé petite grouillotte chez moi, comptable, et aujourd'hui c'est elle qui gère les chiffres de la maison, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, et j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi, mais cette chance, quand même, disons-le, je l'ai provoquée, je l'ai construite, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ces gens aient du plaisir à être avec moi, et moi j'ai du plaisir à être avec eux. Mais ça se peut pas s'écrire dans un livre, ça se construit avec le temps. Et ces mêmes personnes, elles développent autour d'elles ces valeurs qu'on a mises en place il y a maintenant plus de 40 ans.
De quoi vous avez peur?
J'ai peur, je pense beaucoup de gens pensent comme moi, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur, je crains la déchéance physique et la souffrance. Et je suis quelqu'un plutôt croyant, mais je me dis quand même, si Dieu existait, il y aurait pas ça. Quand on voit la douleur de gens perclus dans des lits, dans des situations de douleur absolue, on va mourir tous. Mais ce passage à la souffrance qui n'a pas de sens, quoi. Ça, c'est terrible, ça. Et puis j'ai peur aussi sur un plan peut-être plus léger, j'ai peur de pas être à la hauteur des gens, pas être suffisamment à leur écoute. Je le vois avec un animal de compagnie. Si c'est une porcelaine, ça n'a aucun sens. Si cet animal, on l'écoute, on en tire des choses extraordinaires. Un chat, je parle d'un chat, d'un chien, en gros, hein, pas d'un raton laveur. Hein. Mais cet animal, il peut vous renvoyer des choses extraordinaires, à condition de l'écouter. Mais je le savais pas au début de ma vie, ça. J'ai eu des chiens quand on pour élever mes gosses, mais je m'en suis pas occupé de ces chiens. J'ai pas su m'en servir intelligemment. C'est le privilège de l'âge. C'est arrivé à se poser ce genre de questions, quoi.
Est-ce que vous êtes romantique?
Je crois. Non, j'aime pas trop le romantique, c'est gnangnan quand même. Hein. Nostalgique, oui. Juste ce qu'il faut. La part de nostalgie, elle aide à vivre, elle est ce matelas cotonneux qui parfois apporte un peu de douceur dans la vie, mais pas trop non plus, parce que sinon vous pouvez sombrer. Et ça, je l'ai vécu, moi, il y a quelques années, lorsque je suis retourné à Saint-Étienne. La mairie m'avait fait une surprise en me recevant donc à la mairie, dans la salle des fêtes, et il s'est passé un truc assez extraordinaire. J'étais face à la place de la ville et j'ai eu deux images qui me sont arrivées dans la tête. C'était moi juché sur les épaules de mon père lorsque De Gaulle était venu. La salle, cette place était noire de monde. Et puis en même temps, je me revoyais lorsque je traversais cette place le soir, vide, déserte, en me disant, mais demain, comment tu vas faire pour continuer ton travail, pour payer ton personnel, c'était donc, en gros, 30 ans après, quoi. Et ça m'entraîne dans des abîmes de tristesse et de nostalgie. Il m'a fallu plusieurs semaines pour remonter à la surface. Donc c'est dangereux, la nostalgie. Il en faut un petit peu, mais attention, attention, il faut quand même regarder dehors. Le romantisme, ouais, non, on est, non, je suis pas romantique, non, non, c'est, non, je suis, non. Tendre, oui, enfin, tout ça, mais, je dirais non, quand même, au bout du compte.
Tout bien réfléchi, c'est non. Est-ce que vous pouvez me raconter votre meilleur échec, celui dont vous avez tiré les plus belles choses?
Ah ben, c'est clairement l'échec qui m'a cloué au sol, quoi. C'est ma faillite à Saint-Étienne, hein. Ça, c'est ça, hein. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas pu vendre cette affaire. J'aurais jamais quitté cette ville que j'aime, qui me protégeait, mais qui aussi m'engloutissait. Donc oui, clairement, cet échec, c'était la chance de ma vie quelque part.
Est-ce que vous auriez bien aimé être une femme?
Ben, je répondrai oui et non. Non, parce que je pense que ce métier tel que je le fais me permet de vraiment développer ma part féminine que j'ai en moi. Donc non. Et puis en plus, c'est une question un peu bête, quoi, parce que. Enfin, non, peut-être pas bête, d'ailleurs. Peut-être pas bête. Non, mais évidemment, non, ce que je regrette, c'est que j'aurais aimé connaître les femmes plus tôt.
Ouais.
J'étais partie d'une génération où véritablement la religion, la bondieuserie, l'époque aussi, fait que on vivait pas avec les filles, quoi. Donc c'est un être bizarre, un être qui était un objet de à la fois de peur, de crainte, de désir, de ça c'est parce que les écoles, moi je me souviens d'une séquence assez étonnante. Nous étions en balade en rang d'oignon là, dans la campagne, avec un curé qui nous fait une sortie, et là passent 3-4 filles qui côtoient 10 merdeux là, et on s'est fait engueuler parce qu'il ne faut pas qu'on les voit, qu'on les regarde. J'ai vu ma mère un jour se dresser devant le poste de télé parce qu'il y avait un bout de sein qui n'était pas, enfin même pas un sein, enfin il y avait, voilà. Donc c'est un objet de, là, je dévie un peu de la question, mais non, moi, je suis très heureux d'être un homme, évidemment. Et puis, par contre, ce que je regrette, c'est pas avoir connu le fonctionnement féminin avant, parce que c'est le pendant de l'homme, quoi, évidemment. Hein. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est formidable que les femmes prennent le pouvoir. Et l'égalité, mais enfin bon là, c'est un autre sujet avec des choses qui sont pas terribles, parce que bon, on va le balancier va parfois un peu trop loin, mais aujourd'hui tout est en train de bouger, de bon, les femmes sont partout, enfin, et ça c'est génial, quoi. Oui.
Alors je vais terminer sur cette question, donc vous pouvez y aller, vous pouvez me donner tous les détails que vous voulez. Est-ce que vous pouvez me raconter votre gueuleton idéal?
Il n'y a pas de gueuleton idéal. Il n'y a pas de gueuleton idéal parce que un repas, d'ailleurs vous parlez de gueuleton, c'est un joli mot d'ailleurs, un repas, il est toujours réussi en fonction de l'état des lieux et l'état dans lequel nous sommes, nous. Bon, moi j'ai la chance de cuisiner dans quand même pas mal d'endroits en France, dans le monde. Et donc ma cuisine, elle est un peu caméléon, c'est-à-dire que je suis toujours là, c'est toujours moi. Mais je m'adapte d'abord aux produits, au climat, un peu aux us et coutumes des locales. Un repas réussi, c'est de trouver le bon curseur face à la saison, face aux gens avec qui vous êtes. Vous voyez, donc il y a pas de gueuleton idéal. Il y a de multiples occasions de faire plaisir avec des moyens qui sont totalement différents. Il y a des gens qui n'auront pas d'appétence particulière pour la nourriture, donc vont faire un plat très simple avec une bonne bouteille. D'autres vont être plus charmé par des choses un peu exotiques, enfin, ou plus ludiques, ou plus sophistiquées. Et puis ça dépend de oui, puis ça dépend vraiment de l'instant, quoi. Ce que l'on va manger le 31, on va pas le manger le 2. Je crois que c'est assez, d'ailleurs, ces époques de fête sont assez révélatrices. C'est-à-dire qu'il y a un moment festif. Bon, là, on met vraiment ce qu'on dit, les petits pas dans les grands. Mais si on veut mettre les petits pas dans les grands tous les soirs, mais ça serait insupportable. L'être humain, il a besoin de variété. Il est fait comme ça. Oui. Ça s'est prouvé scientifiquement. Donc, la joie, elle vient de la variété de ce que l'on mange. On peut prendre un plaisir gigantesque avec une pomme de terre à l'eau, un peu d'or fondu, voilà, et un très bon morceau de pain ou un légume vert ou une salade, vous voyez. Quand je dis pain et pomme de terre, ça semble antinomique et pourtant ça ne l'est pas. Moi, j'adore manger une patate avec du pain, par exemple. Vous voyez. Moi, j'ai un très bon souvenir en Suisse, justement, de rosti. Sur une autoroute. C'était magnifique. Qu'est-ce que c'était bon. Il faisait froid. J'avais beaucoup roulé. Et de s'arrêter dans cette station-service où il y avait un petit restaurant à côté. Et c'était très, très bon. Et voilà, c'était un vrai moment de bonheur. J'étais avec ma famille, je m'en souviens très bien. Les gosses étaient jeunes. Ouais.
Et ben, je pense que ce rosti sur l'autoroute, ce sera le mot de la fin. Ça m'avait donné une idée pour mon pique-nique d'aujourd'hui. Et ben, Pierre, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année.
Ben, vous aussi. Vous aussi, Raphaël. Bien de se revoir.
À bientôt, Pierre. Merci.
Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.